Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur votre radio locale sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous et d'avoir noté ce nouveau rendez-vous de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission aujourd'hui au cours de laquelle, à notre manière, nous allons rendre hommage à Denis Tillinac qui nous a quittés le 26 septembre dernier à l'âge de 73 ans. Nous aurons l'occasion de présenter son dernier roman paru de manière posthume aux éditions des Presses de la Cité, Le Patio Bleu. Et nous aurons également l'opportunité de le réentendre à travers deux reportages que j'avais enregistrés pour Radion avec lui. L'un en 2013, dans lequel il évoquait son dictionnaire amoureux de la France, et l'autre enregistré lors de la 10e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon en septembre 2017, au cours duquel il présentait son dernier essai intitulé « L'âme française » aux éditions Albin Michel. On se retrouve dans une poignée de minutes, une fois n'est pas coutume. On commence ce wagon livre par un intermède musical. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci d'être avec nous. Un wagon livre aujourd'hui, en grande partie consacré à Denis Tillinac, disparu le 26 septembre dernier et à qui nous avons souhaité rendre un dernier hommage.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables aux fruits, même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards si j'avais des mis. Les dessins, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des édens, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Mais sinon,
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous accueillir chez vous en cette fin de matinée sur Radion pour votre rendez-vous littéraire hebdomadaire. Nous avons choisi aujourd'hui de rendre hommage, avec un peu de retard, à Denis Tillinac qui nous a quittés le 26 septembre dernier à l'âge de 73 ans alors qu'il participait à la 13e édition de Livre en Vigne, salon du livre prestigieux en Bourgogne organisé au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Hasard ou destin, en tout cas Denis Tillinac est mort un an jour pour jour après Jacques Chirac qu'il avait rencontré alors qu'il était candidat. Une amitié indéfectible lira les deux hommes malgré le ralliement de Tillinac à Sarkozy qui voyait dans l'énergie brouillonne du plus jeune celle qu'il avait connue chez son ancien. Viscéralement attaché à sa terre de Corrèze, Denis Tillinac était un admirateur de la France éternelle et profonde. L'écrivain, éditeur et polémiste, grand animateur de la vie intellectuelle et de la droite française depuis les années 1970, nous a quittés effectivement il y a quelques mois et il avait partagé les combats politiques des années durant avec Chirac. Denis Tillinac était un observateur aigu des mœurs de l'époque. Il aura publié plus de 50 ouvrages, romans, essais, récits, poésies. Depuis, effectivement, donc en 1979, le fameux Spleen en Corrèze, le roman qu'il a fait connaître. Tillinac était corrézien d'origine et d'adoption également. Mais ce Parisien avait mis la province au cœur de son œuvre de fiction. Essayiste, il a écrit sur Simenon. Le mystère Simenon en 1980, Paris, je me souviens de Paris en 1998, mais aussi sur le rugby, Rugby Blues en 1999, sur la religion avec son dictionnaire amoureux du catholicisme en 2011 aux éditions Plomb, sur la politique puisque en cette année 2020 il avait fait paraître le dictionnaire amoureux du général et puis aussi Denis Tillinac qui avait fait paraître un ouvrage sur l'ère du temps, je me rappelle en 2014, de Du bonheur d'être réac. Il avait dirigé les éditions de la Table ronde de 1991 à 2007 et vous le savez, il était donc très proche de Jacques Chirac dont il a été l'ambassadeur en Afrique pour la francophonie. Je vous propose justement de réentendre Denis Tillinac que j'avais interrogé en 2013. C'était dans le Morvan, c'était très précisément à Saint-Honoré-les-Bains, alors que Denis Tillinac présidait une édition du salon Bain de Livres à Saint-Eau. Et à ce moment-là, il avait sur le devant de l'actualité éditoriale un essai intitulé « Le dictionnaire amoureux de la France ». Je vous propose de réentendre Denis Tillinac.
Oui, bah, c'est une collection dictionnaires amoureux, effectivement, assez prestigieuse. Pourquoi moi? Parce qu'on me l'a demandé, effectivement, on pouvait imaginer des gens comme Max Gallo, mais qui auraient parlé peut-être de la nation, de la République. Moi, c'est la France, c'est plus charnel, c'est plus immédiat. C'est un patrimoine paysager, les terroirs, gastronomiques, architecturales, littéraires. C'est une France charnelle que j'ai au cœur et à ce titre je suis ravi d'être aujourd'hui à Saint-Honoré-les-Bains parce que c'est les portes du Morvan, c'est un terroir très particulier, je le connais un peu et ça me fait plaisir d'y revenir et je suis très honoré d'avoir été choisi pour le présider.
Quel est votre lien avec la Bourgogne? Un lien gourmand?
Ouais,
spirituel aussi, vous aimez bien Cluny,
oui,
Vézelay?
Oui, la Bourgogne est le miroir d'un double tempérament français, une pente à la spiritualité, hein, c'est quand même Cluny et Citeaux, hein, des choses qui ont donné lieu à un rayonnement spirituel, puis économique et social européen, on dirait aujourd'hui. C'est aussi le lieu d'un des vignobles les plus réputés du monde. Quand je sillonne cette Côte d'Or, un peu avant, un peu après, au nord le Chablis, au sud Côte de Chalon, Côte de Mâcon, eh ben je trouve qu'il y a une entre, allez, disons, notre pente rablaisienne et puis notre pente pascalienne, il y a une certaine correspondance. Et la Bourgogne est le lieu béni de cette correspondance. Et comme toutes nos régions, il y a l'Auxerrois ou le Sémurois qui ne ressemble pas au Morvan, qui ne ressemble pas au pays de Châlons, qui ne ressemble pas à la Bourgogne industrielle du côté du Creusot ou de Montceau-les-Mines, qui ne ressemble pas non plus à l'Autunois que je connais un peu mieux. J'aime tous ces terroirs, j'aime cette damasserie si chamarrée, si diverse qui fabrique la France.
Alors la France, elle est multiple, elle est maintenant multiculturelle.
Elle n'est pas multiculturelle, elle a des terroirs d'où émanent des personnalités. Elle ne peut pas être multiculturelle, c'est trop petit, ça a été fabriqué depuis trop longtemps autour d'un état et d'une ville, Lutèce, Paris. Elle tolère évidemment toutes sortes de minorités, elle les a toujours tolérées, au fond, les Basques, les Jurassiens, les Bretons,
les Corses
et surtout les Alsaciens qui sont des germanophones, bon, sont des minorités bon, qui ont été brassées et puis ça donne ce pays. Mais elle ne peut pas être institutionnalisée, hein, multiculturaliste, parce que ça fractionnerait le pays en communautés et le français ne le supporterait pas.
La France a été un phare au XVIIIe siècle d'un point de vue idéologique, culturel. A-t-elle toujours rôle ?
Non, bien sûr. On parlait jusque entre deux guerres le français dans toutes les grandes chancelleries, depuis le Caire jusqu'à Saint-Pétersbourg, en passant par Montevideo ou Buenos Aires. Bon, c'est plus le cas, on le sait.
Alors pourquoi ce déclin de Nitilinac ?
J'ai milité pour la francophonie, donc je me suis aperçu que les élites des grands pays ne parlaient plus tous français, que c'était plus une priorité. Il y en a encore, grâce au ciel. Pourquoi ? Bon, parce qu'un pays, et puis la France a cessé d'être une puissance dominante dans le monde. L'Europe s'est suicidée entre 14 et 18 et elle a offert la gouvernance du monde aux Russes et aux Américains. Bon, les Chinois arrivent et les pays émergents arrivent par-dessus là. Il faut tirer notre épingle du jeu, maintenir une forme d'identité dans un univers qui se mondialise pour le meilleur et souvent pour le pire.
Je reviens au dictionnaire amoureux du catholicisme. Est-ce qu'on assiste actuellement à une rechristianisation des sociétés ? Je pense à la Chine, par exemple, où le catholicisme
Elle n'a jamais été christianisée profondément, la Chine, et par la faute des dominicains qui, dans leur combat avec les jésuites, qui étaient partisans de l'inculturation, c'est-à-dire de tolérer, par exemple, le culte des ancêtres ou le culte de Confucius, ont refusé ça. Et on a loupé la christianisation de la Chine au XVIe siècle. Ceci dit, l'Europe se déchristianise en profondeur depuis Descartes, en tout cas depuis le XVIIIe siècle. Le catholicisme, par exemple, romain, n'est-ce pas, rayonne encore assez largement dans les trois premiers pays catholiques du monde, que sont le Brésil, le Mexique et les Philippines. Deux pays d'Amérique du Sud, un pays de l'Asie du Sud-Est, et puis l'Afrique qui arrive, qui se christianise assez largement dans son versant catholique et protestant. Donc l'Église n'a pas de souci à se faire sous réserve de métamorphose. Elle survivra très bien à ce chambardement historique monstrueux que nous vivons en Europe. Elle a davantage de soucis à se faire et il y a un déclin en profondeur. Et alors, même si on assiste à un renouveau ici ou là dans les nouvelles générations, est-ce qu'il risque d'y avoir un maillon qui manque pour la transmission de ce que j'appellerais le catholicisme culturel ? Fait que quand j'étais gosse, moi, tous les enfants étaient à peu près baptisés. On mariait les filles à l'église, même si elles s'étaient tapées tous les gars du canton. Et puis c'était pas grave, hein. On venait à l'église, il se passe toujours quelque chose quand Transing. C'était peut-être c'était le seul moment où certaines familles peu pieuses y entraient. On enterrait les gens à l'église. Ce catholicisme culturel-là est en train de disparaître, en tout cas en France, et c'est triste.
Mais ce déclin du catholicisme culturel de Nitilinac, est-ce qu'il contribue à une forme d'effritement
du patrimoine de la France, de son identité également, parce que...
Oui, on peut... Il est évident, je dirais, le catholicisme avec ce qui est Robin, qui a été très important en France, où pour le meilleur et des fois pour le pire, c'est-à-dire une prégnance sur la société telle que ce catholicisme-là est inséparable d'un certain anticléricalisme, qui fait partie d'ailleurs de la culture catholique, hein, je dirais, bien avant les instituteurs francs-maçons de la Troisième République, les franciscains, étaient des anticléricaux très, très véhéments. Oui, on ne peut pas raisonner sur l'identité profonde de la France quand on voit son patrimoine intellectuel, spirituel, politique, sans se dire que le catholicisme était essentiel. Entre l'art byzantin et le baroque inclus, toute l'histoire de l'esthétique occidentale, l'histoire de l'art occidental, c'est une histoire de l'art religieux, de l'art sacré, de l'art et de l'art catholique. Donc nier ça au prétexte de laïcité mal comprise, c'est tout simplement imbécile.
Dans le dictionnaire amoureux du catholicisme, vous consacrez un long chapitre qui a pour titre « Ballade bourguignonne ». Je reviens effectivement oui, à la Bourgogne oui. que vous avez sillonnée du nord au sud, d'est en ouest.
Oui, je vous ai dit que cette Bourgogne a quelque chose de qui relève de l'ambiguïté même de tempérament français avec son versant gourmand. Rabelaisien, paillard même, en tout cas épicurien, et puis version spiritualiste. Il y a Cluny et Cîteaux, hein, c'est-à-dire les bénédictins et les cisterciens, c'est leur rayonnement et leur importance. Hein, ils ont métamorphosé l'agriculture et invoqué pratiquement la banque moderne, hein, le capitalisme transnational. Hein, c'est pas les vilains américains qui ont inventé ça, c'est eux. Mais il y a aussi Thésée, hein, donc, qui est une initiative moderne, œcuménique, et qui, c'est pas un hasard, ou s'il l'est, il est très symbolique, que ça se trouve tout près de, dans le Mâconnais, tout près de Cluny. Il y a la sainte du Carmel de Beaune, il y a Elisabeth à Dijon, enfin il y a
Bernadette Soubirous.
Et puis il y a Bernadette Soubirou que je vais voir chaque fois qu'il m'arrive de faire escale à Nevers. Je vais toujours voir Bernadette, j'ai une tendresse pour elle, peut-être parce que là, moi je suis du sud-ouest, on parle l'occitan, et la Vierge s'est adressée à elle en patois bigourdant, je trouve ça... très émouvant, oui, il y a tout ça. Et puis, à côté de ça, il y a une floraison de bonnes auberges. Y a,
vous ne parlez pas beaucoup de Vézelay, parce que nous, dans Lyon, on aime beaucoup
et vous
notre
avez, Vézelay,
Sainte-Marie-Madeleine.
Et Sainte-Marie-Madeleine. Et puis, le Vézelay, où, quand même, Saint-Bernard de Clairvaux a prêché la deuxième croisade en présence du roi de France. Alors, je sais bien que les croisades, c'est mal vu d'en parler maintenant, mais enfin, ça appartient à notre patrimoine aussi. Il y a eu les croisades, il y a eu le djihad, il y a eu cette rencontre souvent violente, passionnelle, parfois intellectuellement féconde entre les chrétiens et les musulmans. Et si l'Orient procède d'un fantasme, d'un rêve en Occident, et si l'Europe fait aussi fantasmer les gens du Maghreb ou du Proche-Orient, ben ça vient de cette rencontre. Alors ça aussi c'est intéressant, et ça passe par la Bourgogne. Et puis le vin de Bourgogne, moi j'aime bien le vin de Bourgogne, je le préfère au vin de Bordeaux. Vous savez, il y a une querelle historique que pourraient incarner mes amis Jean-Paul Kaufmann et Jean-Robert Pitt, là. Plutôt Bordeaux, l'autre plutôt Bourgogne. Bon, vin de Bordeaux, vin de protestant, vin du regret, un peu intello, tourné vers le nord, puisqu'on exportait vers l'Angleterre et la Scandinavie. Vin Bourgogne, vin des rois de France, hein, par la Seine, remonté. Et puis vin du Vatican, vin des rois, vin des papes. Hein, vin plus gaillard, plus franc du collier, plus gourmand, plus... plus suggérant plus immédiatement une féminité accessible. Voilà, et ça, moi, et j'avoue une préférence pour les vins de Bourgogne, blancs ou rouges.
Denis Tillinac, vous avez des nouvelles de Jacques Chirac ?
Jacques Chirac n'est pas en très bonne santé, c'est pas une information. Il n'est pas tout jeune, il est atteint d'une maladie dont on sait qu'elle l'handicape. Inégalement selon les jours, des moments, vu il y a quelques mois, elle est plutôt bien. On me dit que selon les jours, il va plus ou moins bien, mais de toute façon, il restera pour moi celui que j'ai vu arriver dans mon village. Je venais juste d'avoir mon bac, espèce de cavalier de la steppe là, avec une mobilité, un charisme merveilleux. Et c'est cette image-là que j'ai envie de garder.
À l'instant, sur Radion à bord de Wagon Livre, c'était Denis Tillinac qui nous a quittés en septembre dernier. Denis Tillinac que j'avais enregistré au cours de l'été 2013 au salon du livre Bain de Livre à Saint-Aux, c'était dans la Nièvre. Denis Tillinac qui présentait alors son dictionnaire amoureux du catholicisme. Denis Tillinac qui a reçu un très grand nombre de prix, un grand nombre de récompenses. On mentionnera tout de même Rugby Blues en 93 aux éditions de la Table Ronde qui avait obtenu le prix populiste et le grand prix de la littérature sportive. Il a reçu aussi le prix Paul Léoto pour les masques de l'éphémère. Il a reçu aussi le prix du livre politique, le prix des députés pour le Venin de la mélancolie. Mentionnons tout de même aussi en 83 aux éditions Robert Laffont l'été anglais, prix Roger Nimier, le prix Jacques Chardonne en 90 pour la Corrèze et le Zambèze, et mentionnons également le prix Maurice Genevoix et le prix Erwan Bergo de l'Armée de Terre pour le dictionnaire amoureux de la France paru aux éditions Plomb en 2008. Hommage aujourd'hui dans Wagon Livre à l'écrivain, ancien journaliste, ancien éditeur Denis Tillinac, qui a publié, je le rappelle, des essais, des récits, des romans, des chroniques, de la poésie, couronnée notamment par de très nombreux prix littéraires, dont le fameux dictionnaire amoureux de la France, qui a été d'ailleurs remarqué par la critique, et puis le dernier opus de Denis Tillinac, ce fut le dictionnaire amoureux du général, toujours aux éditions Plomb, et puis j'aurai le plaisir de vous présenter son dernier roman, paru de manière posthume au début de ce mois de novembre 2020, aux éditions des Presses de la Cité. Il s'agit du Patio Bleu, que j'aurai l'occasion de vous donner l'envie d'acheter et de lire un roman dans lequel on retrouve les thèmes chers à Denis Tillinac, l'amitié fidèle, le poids du passé et des souvenirs, les ambiguïtés du désir, l'opposition entre Paris, Eldorado factice et la province assoupie et en déshérence, la méfiance envers les manifestations de l'air du temps et les excès de l'époque, les aspirations de jeunesse confrontées à une vie faite qui s'avance vers la vieillesse. Et puis, sachez aussi qu'en janvier 2021, les Presses de la Cité, dans la collection Omnibus, fera paraître Le Bonheur en Corrèze, qui regroupe des romans provincialiste, dans le sens où la Corrèze représente la vie provinciale française, où l'on retrouve les thèmes chers à Denis Tillinac, à savoir la quiétude provinciale face à la sauvagerie parisienne, le culte de l'amitié, le rejet des modes et des excès de la modernité, les pièges de la nostalgie, les ambitions bafouées, des histoires écrites avec la musique Tillinac, un ton mélancolique, tout de retenue dans lequel le passé affleure. C'est Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve dans une poignée de minutes après la virgule musicale que nous vous proposons.
Sont en retard quand sonne l'heure de leur départ, ou d'un sourire, ou d'un regard. Oh, 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 là, le corps ouvert aux rives adultères, à la caresse amère des amours passagères.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous recevoir chez vous en cette fin de matinée sur Radion, un wagon livre qui rend hommage à Denis Tillinac, romancier, essayiste, poète également. Lui qui fut un observateur aigu des mœurs de notre époque et qui a publié plus de 50 ouvrages, Denis Tillinac qui nous a quittés le 26 septembre dernier à l'âge de 73 ans. Et la maison d'édition Les Presses de la Cité a fait paraître début novembre son dernier roman, paru donc de manière posthume, roman intitulé Le Patio Bleu, qui met en scène en fait un narrateur qui a mené toute une carrière diplomatique. Il fut notamment ambassadeur en Afrique, son dernier poste sera d'ailleurs l'ambassade de France en Jamaïque, mais surtout, ce qu'il faut noter dans ce roman très, très agréable, c'est que finalement la politique n'intéresse pas vraiment le narrateur, lui qui pourtant a commencé sa carrière en tant que nègre d'un homme politique qui s'appelait Casal, qui était plutôt un radical socialiste qui est devenu ministre. Et c'est dans le ministère de ce Casal, ministre de gouvernement de gauche, que le narrateur a rencontré la fille de ce ministre. Elle se prénomme Marianne. Avant que d'épauler la carrière politique de son père, ça rappelle d'ailleurs un petit peu Claude Chirac, qui a beaucoup coaché son père Jacques Chirac. Eh bien, Marianne Casal, fille de ministre, dirigeait une collection de livres d'art chez un éditeur de la place Saint-Sulpice à Paris. Elle a fait des études d'histoire de l'art à la Sorbonne et à l'École du Louvre. Elle est mariée à David Cohen, qui enseigne la sociologie à Dauphine, qui est un ancien maoïste proche de Benny Lévy et qui est attiré par le christianisme. Alors ce que je voudrais dire, c'est que le roman de Denis Tillinac, ce dernier roman paru aux éditions des Presses de la Cité, n'est pas un roman qui est consacré à la politique, mais en tout cas, en filigrane, bien évidemment, l'action politique est là et un très grand nombre de passages effectivement propose une radiographie de la France qui a évolué. politiquement. Et je vous propose d'entendre un premier extrait du roman de Tillinac, lu par Hervé. Il s'agit effectivement de prendre conscience de l'état de la France au début du XXIe siècle.
Pour moi, désormais, le Gers, c'était Condom. Les trois mésanges, la chambre numéro 1, le patio bleu, le sourire de Raïssa, les soirées à la Buissonnière. Le siècle touchait à sa fin. Celui qui s'annonçait promettait l'apothéose du numérique. Bob, désormais, mettait ses patients sur fiche dans un ordinateur. Au Quai d'Orsay, on entendait dire que la Chine allait dominer les temps à venir. Que l'histoire congédierait les pays européens pour voguer dans le Pacifique et les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle seraient l'enjeu capital. On entendait dire aussi, mais à voix basse, que la France aurait de graves soucis avec ses musulmans. La campagne présidentielle avait électrisé le climat politique. Chiraquien et Balladurien se canardaient à balles réelles. Je les entendais siffler au ministère, où chacun était sommé de choisir son camp. Conflit de famille, comme souvent devant le notaire au moment de la succession. Le notaire, c'était Mitterrand, vieux sphinx au bord de la mort, impavide, visage cireux, environné de courtisans désorientés. Le socialisme était passé de mode. Le libéralisme aussi. On cherchait une troisième voie pour enrayer le chômage.
Un extrait du roman de Denis Tillinac, lu par Hervé. Et le patio bleu, qu'est-ce que le patio bleu ? Le patio bleu, c'est tout simplement dans le Gers, dans cette sous-préfecture du Gers qui est, je cite, présentée comme une oasis dans un désert économique. Eh bien, c'est là que le narrateur choisit de s'installer pour y couler sa retraite. Et au patio bleu, qui est le bar où se retrouvent plutôt des gens de la maturité, eh bien, se réunissent habituellement des hommes et des femmes un peu fatigués de leur vie parisienne et qui sont venus s'installer dans cette charmante petite ville du Gers pour se rassurer, se poser, consommer raisonnablement. Et il y a effectivement cette histoire d'amitié entre le narrateur et Marie-Anne, qui, vous le savez, a longtemps accompagné son père qui fut ministre. Alors tout le roman de Denis Tillinac présente aussi des petits bonheurs. Hein. C'est le vin rosé que l'on boit dans ce patio bleu avec les glaçons, les copains, les amuse-bouches. C'est la propriété de la Buissonnière qu'achète Marie-Anne et où l'on vit heureux. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette Marie-Anne, qui finalement était plutôt dans une vie assez rangée, assez bourgeoise, et qui va s'enticher d'un meneur de gilets jaunes, puisque effectivement le roman se passe à une période très contemporaine. Et je vous propose d'entendre un autre extrait du roman de Denis Tillinac, Le Patio Bleu, un roman qui, là encore, un extrait du roman qui, là encore, montre une France et un monde en pleine évolution.
Sarkozy a été battu par Hollande. La nouvelle génération de socialistes n'était pas moins avide que son aîné. J'ai glandé 5 ans dans un placard à la direction des affaires culturelles, en cours de réorganisation. J'avais vu faire la roue puis le dos rond des giscardiens, des mitterrandiens, des rocardiens, des chiraquiens, des balladuriens, des sarkozistes. Et la ritournelle continuait avec les hollandais, aux prises avec les attentats islamistes, Charlie Hebdo, le Bataclan. Depuis les émeutes dans les banlieues sous Chirac, le débat public se focalisait sur les immigrés de la troisième génération. Devait-on les assimiler ou seulement les intégrer ? L'offensive de Bush Junior en Irak avait enrôlé la jeunesse des pays musulmans dans une double guerre de religion. Disciples d'Allah contre infidèles, sunnites contre chiites. Le discours de De Villepin aux Nations Unies avait redoré le blason de la France. Mais le climat s'alourdissait. Les Français, les Européens, se sentaient en équilibre instable, dans une Babel menacée de noyade par la folie des chefs de guerre au sud de la Méditerranée. L'Occident perdait la main. Obama, qui avait été élu président, tergiversait. Poutine tirait les ficelles tachées de sang pour accroître la confusion, et partout, la Chine avançait ses pions.
un extrait du dernier roman de Denis Tillinac, Le Patio Bleu, lu par Hervé. Je l'ai déjà dit, le narrateur de ce roman, même s'il a mené toute sa vie une carrière diplomatique qui l'a conduit aux quatre coins du monde et notamment en Afrique, n'est pas un amoureux de la politique. En revanche, il aime le rugby, il aime aussi la peinture. C'est un des points communs entre le narrateur et Marianne. Il est beaucoup question de peinture. Hein, Denis Tillinac aimait lui-même la peinture. Et il y a des clins d'œil, bien sûr, à notre société française, aux difficultés que rencontre notre société française. Et il y a un passage qui est très intéressant dans le roman. À un moment, à Condom, un groupe de jeunes gens plutôt à gauche décide d'accueillir une conférence du sociologue Jean-Pierre Le Goff, lecture de ce moment fort qui va animer les esprits dans cette petite sous-préfecture du Gers, Condom.
Dans la salle, j'ai reconnu quelques habitués du Zapata en dreadlocks et Hugues qui roulait une cigarette parmi un groupe de jeunes entourant Antonio. Celui-ci a présenté le conférencier en rappelant son passé à gauche de la gauche. Le Goff n'était pas dupe de la sensibilité de l'auditoire. Il s'en est tenu à une synthèse de son dernier livre. L'agonie programmée d'une société française, où cohabitaient ses clochers et ses mairies-écoles, ses curés et ses instits, ses industriels émergés de la bourgeoisie foncière et ses ouvriers paysans. Elle battait déjà de l'aile quand j'accompagnais Cassal dans son fief. Les élites savent cela. Leur modèle économique donne presque jour après jour les coups de grâce. Les politiques sont là pour adoucir les chocs avec des incantations compatissantes et l'aumône de subventions. Pascal applaudissait comme à Armandy lors du dernier essai lorsqu'un joueur d'Agen avait transpercé la défense. Nous nous sommes éclipsés au moment où des questions fusaient dans la salle. Une féministe, sans doute végane, a pris la parole. Son dégagement englobé dans une même détestation, les violeurs des nuits sans lune, les chasseurs, les cathos et les mangeurs de saucissons. Tous fachos. Elle ne faisait pas le détail.
Un extrait du Patio Bleu, lu par Hervé. Le Patio Bleu, le dernier roman de Denis Tillinac, paru aux presses de la Cité. Il y a aussi, alors c'est amusant, je souhaitais le souligner, c'est pas récurrent, mais disons qu'il y a un clin d'œil qui revient un peu comme un boomerang. Le narrateur aime évoquer Penet, le dessinateur Penet, qui avait conçu pendant la guerre un couple d'amoureux merveilleusement extatiques et candides, qui ressuscitait une sorte de romantisme. Et ces amoureux de Penet apparaissent souvent dans le roman. Alors, c'est sans doute aussi un peu de cette manière que le narrateur regarde avec admiration, affection et douceur Marianne, la femme au centre de ce roman. D'ailleurs, elle se prénomme Marie-Anne, prénom composé, mais Marie-Anne est aussi assez proche de Marianne, qui est le symbole et le prénom symbole allégorique de la France. Cette phrase aussi concernant les amoureux, notée dans le roman de Denis Tillinac. Les amoureux ne connaissent de l'amour qu'une partition, d'autres innombrables sans poussière dans les greniers de nos songes. Alors je l'ai dit, bien sûr, il y a aussi cette nostalgie du narrateur à l'égard d'une France qui fonctionnait à merveille, d'une France grandiose, d'une France prometteuse, alors que dans les années 2018, au moment où le narrateur choisit de prendre sa retraite en s'installant en province, notamment dans cette sous-préfecture du Gers Condom, eh bien, la France rencontre un très grand nombre de difficultés. Et ce n'est pas que la France, hein, c'est aussi un mouvement très, très européen. En tout cas, c'est aussi la France et sa ruralité. Alors, il y a ce petit clin d'œil amusé, d'ailleurs, puisqu'il y a tout de même une histoire. Le narrateur a des aventures avec des femmes qui trompent leur mari. C'est aussi un roman qui développe des thèmes qui sont chers à Tillinac, à savoir le flou des sentiments, le poids des souvenirs, l'opposition entre Paris et la province, une province assoupie et en déshérence, la méfiance aussi envers l'air du temps. C'est amusant, il y a aussi une petite réflexion sur Finkielkraut, puisque finalement le mari de Marianne, le professeur de sociologie, a connu d'ailleurs Finkielkraut. L'identité des Français est malheureuse, si l'on en croit un livre de Finkielkraut qui a fait scandale. David l'a bien connu durant ses années de militantisme à gauche de la gauche. Un bon mec, mais il a besoin d'être malheureux, c'est inguérissable. Et puis il y a, alors ça c'est assez surprenant, c'est page 302 dans le roman, donc plutôt sur la fin, c'est dans le propos de Bob. Bob qui est médecin généraliste, qui d'ailleurs a un regard assez méprisant et aussi beaucoup de crainte à l'égard du mouvement des Gilets jaunes. Parfois un petit peu cynique dans ses prophéties, voici ce que Bob dit au narrateur. « Dans 20 ans, on n'aura plus les moyens de moucher et de torcher les vieillards. Un seul espoir, la pandémie ou une guerre nucléaire. Qu'est-ce que vous préférez ?» Voilà, je vous propose un dernier extrait du roman de Denis Tillinac, « La France telle qu'elle est aujourd'hui radiographiée » sous la plume du narrateur et indirectement sous la plume de Denis Tillinac.
Le gouvernement ne s'intéresse qu'aux grandes villes et aux immigrés. La campagne, il s'en fout. Ce que Marianne me disait en haut débit tandis qu'elle dressait le couvert, on le lisait, on l'entendait partout. Des sociologues, des politologues, des économistes et des intellectuels inondaient les médias d'analyses inspirées par les livres de Le Goff. La mort de la ruralité, la déshérence des villes moyennes, le prix de l'immobilier dans les grandes villes qui devenaient des réserves de bobos friqués, comme Bordeaux depuis qu'elle est desservie par le TGV. Les territoires sacrifiés par les élites au seul bénéfice d'un populisme en plein essor, pas seulement en France. D'autres livres diagnostiquaient l'atomisation de la France en archipels, géographiques, sociaux, ethniques, confessionnels, et annonçaient la fin d'une civilisation. La nôtre, celle de l'hellénisme, de la romanité et du judéo-christianisme. Le débat public tournait à la foire d'empoigne entre souverainistes et européistes, conservateurs et adeptes de la mondialisation. Les écolos et les féministes se radicalisaient, les véganes caillassaient des boucheries, l'écriture inclusive s'imposait dans la presse et l'affaire Weinstein déclenchait des MeToo rageurs sur les réseaux sociaux. Macron donnait l'impression de caboter à vue dans une ambiance délétère, alourdie par la hantise de l'islamisme, même dans le Gers, où affluaient des immigrés à dominante maghrébine venus de Toulouse ou de Bordeaux. Raïssa, dont les parents sont nés en France, les trouvait trop nombreux et trop récriminants. Si on fait le ramadan, on passe pour des complices du terrorisme. Si on ne le fait pas, on est des traîtres.
C'était un extrait du Patio Bleu, lu par Hervé, Le Patio Bleu, le titre du dernier roman de Denis Tillinac. Effectivement, on retrouve vraiment dans ce roman un grand nombre de thèmes que Tillinac a toujours développés dans ses différents romans, mais aussi dans ses essais. Il y a, c'est vrai, cette... Comment dire, Paris qui est présenté comme une ville plutôt à fuir désormais. Extrait d'ailleurs, page 207. Paris devenait un chantier où me frôlaient des jeunes montés sur trottinettes. Le danger venait aussi des cyclistes. Ils roulaient à contresens sur les trottoirs avec dans les yeux cette certitude butée d'être du côté de la morale écolo. La laideur de l'Institut du Monde Arabe et celle de Jussieu me désobligeaient plus qu'avant. Et pour attester la folie du monde contemporain, une grue surplombait Notre-Dame, meurtrie par un incendie. Alors il y a aussi dans le roman toute la réflexion que le narrateur mène pour savoir si effectivement ça vaut vraiment le coup d'aller s'installer en province. Un petit extrait encore que je vous lis. Pourquoi ne pas m'y échouer ? Ici sont mes racines, terme qui connaît une nouvelle vogue et peut-être la dernière. Depuis le début du phénomène des Gilets jaunes, on opposait une France mondialisée, urbaine, surdiplômée, hors sol et bobo à celle de la ruralité et des villes moyennes. Le Gers, la Nièvre, le Cher sont des territoires. Les gens y ont encore de la glèbe sous leurs godasses. la Drôme et l'Ardèche aussi. Par mon métier, j'avais surtout connu les miroitements du cosmopolitisme, tempérés, il est vrai, par les traditions du Quai d'Orsay, qui est en soi une sorte de patrie. L'île Saint-Louis en est une autre. Le Patio Bleu, dernier roman de Denis Tillinac, disponible en librairie aux éditions des Presses de la Cité. C'est Wagon Livre sur Radion, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous marquons une nouvelle pause musicale. Et ensuite, je vous ferai entendre une interview de Denis Tillinac, enregistrée en 2017. C'était lors de la 10e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Denis Tillinac était venu y présenter un essai intitulé « L'âme française », alors paru chez Albin Michel. Et Denis Tillinac avait d'ailleurs commenté en 2017 les débuts de la présidence Macron. C'est rétrospectivement tout à fait intéressant et révélateur. Pause musicale, nous nous retrouvons dans une poignée de minutes pour la suite de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je mens. Ouvre tes yeux, prends. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je mens, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. SOS. Toi, tu crois que je brille, que je mens. Ouvre tes yeux grands. Oui, toi, tu crois. Pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. SOS.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Merci de nous être fidèles pour ce numéro de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion pour une émission aujourd'hui, une émission hommage que nous rendons à notre manière à l'écrivain, essayiste et poète Denis Tillinac, disparu fin septembre dernier à l'âge de 73 ans. Je vous propose d'ailleurs de réentendre une séquence que j'avais enregistrée avec lui fin septembre 2017, c'était lors de la 10e édition de Livre en Vigne, en Côte d'Or, au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. Denis Tillinac était venu y présenter son dernier essai sur la droite française, un essai intitulé « L'âme française », paru alors aux éditions Albin Michel. Et j'avais demandé à Denis Tillinac de nous présenter cet ouvrage. Denis Tillinac, enregistré fin septembre 2017 lors de la 10e édition de Livre en Vigne.
Oui, c'était une réflexion sur l'état assez calamiteux de la droite française. En France, il y a une droite et une gauche. Moi, je crois à la pertinence du clivage depuis au moins la Révolution française, plus probablement depuis la Réforme et les guerres de religion, qui détermine deux façons de concevoir la liberté, deux façons de l'homme dans la cité, donc deux approches de la politique. Et la gauche a une culture des lieux symboliques, des grands ancêtres, des référents, et c'est très bien, ça fait partie de la culture nationale, et c'est plus que respectable. Alors la droite aussi, là aussi, le seul problème, c'est que ses dirigeants, ses notables, ne le savent pas, ne la connaissent pas, ne s'intéressent pas. Il y a une culture de droite, il y a des héros de droite, il y a des figures à la fois symboliques ou littéraires ou historiques, et bien ils en font fi. Et donc ils parlent d'économie et ils ne font pas rêver. Et donc ils donnent la moitié de la France de droite se sent un peu orpheline de mythes, de légendes et de souffle. Vous voyez, et donc j'ai voulu restituer à la droite française ce qui lui appartient, c'est-à-dire son univers et son imaginaire.
Alors hier soir, Denis Tillinac, nous parlions un peu du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Quelle radiographie de la politique française faites-vous actuellement, et notamment avec ce jeune président, 39 ans, huitième président de la 5e République?
Bon, je regarde ça de loin. Hein, je n'ai jamais fait de politique. Je m'intéresse à la politique en tant que citoyen. J'essaie de comprendre derrière les apparences d'une élection qui doit tout à quelques circonstances particulières. Macron a été très mal élu. Il n'a pas de base sociale autre que les cadres des grands centres urbains, plutôt favorisés par le sort économique, ouvert sur l'économie monde, mais ça fait pas grand-chose. Hein. La France des pauvres et des déclassés a voté Le Pen. La France des mal classés a voté Mélenchon. La France conservatrice, bourgeoise, plutôt de province, a voté Fillon. Bon, il a pris le reste. Alors à partir de ce moment-là, on construit une mythologie. Il faut essayer de voir la symbolique. Et donc, moi, après des débuts qui m'ont paru assez convaincants, parce qu'il a resacralisé un peu la fonction, la passation de pouvoir, tout ça, ça avait une certaine allure. On a l'impression qu'il est livré à des communicants et qu'un adolescent narcissique, un peu enivré de son propre pouvoir, comme ça, est entre les mains, au fond, quand même, des forces internationales de l'argent. C'est Mélenchon qui le dit, je ne crois pas qu'il ait complètement tort, avec comme ça une vision du monde ouverte à tout vent, délocalisée, décomplexée. Ce que Régis Debray, dans ses dernières analyses, appelle une éthique protestante qui l'oppose à notre vieux fond catholique qui est en train de disparaître sous les formes laïques profanes qu'il avait connues depuis le 19e siècle, la patrie, le parti, éventuellement, pour la politique, quel qu'il soit, vous voyez, tout ça est en train de disparaître pour être un espèce de monde de réseau informel, transversal, difficile à définir, et qui s'appelle la modernité. Moi, je me demande si tout ça finira pas mal, parce que parallèlement, pour la première fois depuis très longtemps, à la fois dans le monde, en Occident et en France singulièrement, l'écart entre les favorisés et les déshérités s'aggrave. Et je vois un certain essor de, la, de ce qu'on appelle la lutte des classes. Avec des modes communicants et avec un espèce de baratin moralisant, on ne peut pas éternellement occulter le réel. Et le réel, c'est qu'un peuple déboussolé qui se sent dépossédé dans son sentiment d'appartenance à des lieux, à une mémoire, ne supportera pas volontiers ou pas longtemps d'être gouverné par comme ça un personnage issu d'un monde internet comme ça un peu sûrement brillant un peu irréel, un peu artificiel. Il y a beaucoup d'artifices là-dedans. Et le réveil du président Macron pourrait être dur.
À l'instant, la voix si particulière de Denis Tillinac, enregistrée fin septembre 2017. Nous allons le réentendre après la pause musicale que nous allons vous proposer d'ici quelques secondes. Je rappelle d'ailleurs que Denis Tillinac a reçu le Grand Prix de littérature Henri Gall de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Je rappelle son dernier roman, paru de manière posthume aux éditions Les Presses de la Cité, dernier roman intitulé « Le Patio Bleu ». Et puis en janvier prochain, janvier 2021, les éditions Les Presses de la Cité, dans la collection Omnibus, feront paraître « Le Bonheur en Corrèze », qui regroupera des romans provincialistes, dans le sens où la Corrèze représente la vie provinciale française, où l'on retrouve les thèmes chers à l'auteur, la quiétude provinciale face à la sauvagerie parisienne, le culte de l'amitié, le rejet des modes et des excès de la modernité, les pièges de la nostalgie, les ambitions bafouées, des histoires écrites avec la musique Tillinac, un ton mélancolique, tout de retenue, dans lequel le passé effleure. On se retrouve juste après la pause musicale pour la suite et dernière partie de Wagon Livre, au cours de laquelle nous réentendrons un extrait d'un entretien enregistré fin septembre 2017 lors de la 10e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot avec Denis Tillinac.
Yesterday, like any day, alone again, for every day seemed the same sad way to pass the day. The sun went down without me, suddenly someone else has touched my shadow. He said, hello. Yesterday, yesterday, like any day, alone again, for every day seemed the same sad way, he tried to say. What did you do without me? Why are you crying alone on your shadow? He said, I know. Yesterday, yesterday, like any day, alone again, for every day seemed the same sad way to pass the day. The sun went down without you, folding me in his arms, I'd become his shadow. He said, let's go. Shadows today.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je vous propose d'entendre un extrait d'interview enregistré avec Denis Tillinac fin septembre 2017. Il avait alors présenté L'âme française, son essai chez Albin Michel, qui présentait un certain état de la droite en France. Et je lui avais d'ailleurs demandé si on pouvait établir un parallélisme entre le parcours de Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac et qui a été élu président de la République en 2007. Pouvait-on établir un parallélisme donc entre le bouillonnant Nicolas Sarkozy et le jeune Emmanuel Macron devenu président de la République le 14 mai 2017, Denis Tillinac?
Oui, le parallèle est...
On peut le tenter, mais...
On peut tenter le parallèle, bon, parce que Sarkozy était passablement narcissique. Il était... il a désacralisé la fonction avec un style des foucades qui lui a permis au début de dynamiser quand même. Hein. Il est parti sur un socle de droite identitaire de plus de 30% en 2007. Alors ce socle s'est dilapidé et puis il a fini par exaspérer parce que, un peu comme Macron aujourd'hui, quand on va parler tout le temps, être toujours comme ça, ne plus être président de la France mais son rédacteur en chef et intervenir à tout propos, ben ça use. Ça use. La notoriété médiatique use et elle use de plus en plus vite parce que les stocks d'imaginaire tournent à une vitesse accélérée. Donc le parallèle s'arrête là. Sarkozy était encore le meilleur représentant pour sa génération de ce qu'on va appeler la droite de façon générique. Est-ce que Macron arrive dans une configuration où provisoirement droite et gauche semblent un peu... au bout d'un certain rouleau et essaie de se faufiler avec un discours finalement centriste puisque la seule alliance politique qu'il a conclue c'est avec le MoDem, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Je ne parle pas de la personnalité de Bayrou qui est respectable, je parle en tant que parti, c'est rien.
Mais un Premier ministre issu quand même de la droite.
Oui, un Premier ministre issu de la droite, alors ça... Le gauche et droite vont se reconstituer. La social-démocratie, ce côté, se reconstituera. C'est des grandes et vieilles familles politiques. Et à droite aussi, ça se reconstituera. Et moi, je pense d'ailleurs qu'on pourrait très bien retrouver deux droites comme du temps du RPR et de l'UDF. Une droite conservatrice, populaire, bonapartiste, cocardière, attachée à ses traditions, à son identité, et puis une droite plus européiste, plus libérale, ce qu'on appelle la droite orléaniste. Alors l'une sera très vraisemblablement conduite par Laurent Wauquiez à partir du mois prochain. L'autre, ça peut être Valérie Pécresse, ça peut être aussi Édouard Philippe.
Alors,
s'il sait quitter le gouvernement à temps.
Il y a tout de même l'attitude des deux partis extrêmes, Mélenchon d'un côté et de l'autre le Front National. Alors, le Front National, on voit qu'actuellement, il est en train d'éclater. Enfin, il y a de graves scissions à l'interne. Chez Mélenchon, lui, c'est l'union quand même, l'unité.
Effectivement, il est certain que le tripartiste auquel on assistait depuis une vingtaine d'années de par l'essor du Front National était une anomalie. Hein, puisque les institutions conçues par De Gaulle avec un scrutin uninominal majoritaire à deux tours s'étaient fait pour qu'il y ait deux forces politiques qui alternent. Cet essor du Front National est une anomalie. Alors est-ce qu'elle va disparaître? Je dirais que c'est la mission historique de Wauquiez, s'il est élu en décembre président du nouveau parti de droite, de lui reprendre les deux tiers de ses voix, de reprendre les voix de Dupont-Aignan pour retrouver quelque chose de plus normal, un RPR des années 70 et 80. Il réussira ou il réussira pas. Pour le moment, le Front National est en difficulté parce que de l'aveu propre de Madame Le Pen elle-même, dit ce qui nous manque, c'est un contenu. C'est un aveu terrible. Elle a dit ça hier. Un contenu, c'est-à-dire un contenu politique. C'est une ligne, une politique, tout simplement. Donc, à voir, puisque scission avec Philippot, qui donnait l'impression d'avoir défini la ligne depuis quelques années et d'avoir aidé à dédiaboliser le parti, puisque ce social très étatiste, il se posait comme un disciple d'un chevènement plus ou moins gaulliste. Bon, ça c'était très bien pour dédiaboliser le parti, mais ça posait des problèmes à une droite conservatrice et libérale de classe moyenne, que l'hypothèse d'une sortie de l'euro a épouvanté, ainsi que les retraités. Donc, à voir. Mais normalement, la tâche historique de Wauquiez, c'est de, sinon de le faire disparaître, de le marginaliser. À l'extrême gauche, on est orphelin du Parti communiste. Il y a toujours une gauche robespierriste dans ce pays depuis la Révolution, une gauche radicale. C'était les communistes pendant longtemps, c'est plus les communistes. Il y a eu un petit coup d'Arlette Laguiller, Besancenour, on sentait bien qu'il y a un espace qui était à prendre. Alors Mélenchon l'a investi avec énormément de talent. On a l'impression de... Là, avec lui, on n'est pas dans le monde irréel de Macron, on est dans le monde historique de l'histoire de France et on a l'impression d'entendre Danton. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Alors, est-ce que sa psychologie un peu agressive, un peu tendue, qui donne l'impression d'avoir des rapports difficiles avec ses alliés, va lui permettre ou pas de recréer un grand parti de gauche radicale dans ce pays? C'est une des autres, des deux ou trois problématiques pour les 15 prochaines années.
Merci Denis Tillinac d'avoir brossé ce portrait politique de la France
en
septembre 2017.
C'est un écrivain de plus en plus désengagé qu'il fait.
Vigilant quand tout de même
passionné par ce qui se passe dans mon pays.
Alors, vous avez été toujours très proche de Jacques Chirac.
Oui, bien sûr. Oui, c'est un lien, une amitié privée et dont je m'honore.
Une petite anecdote sur Jacques Chirac? Un souvenir fort?
Oui, vous savez, il y a beaucoup de gens lui ont reproché de pas être un vrai homme de droite. Or, il n'a jamais prétendu être un homme de droite. Et je me rappelle qu'il y avait une préface. Je devais rédiger quelque chose concernant la mémoire d'Henri Cueil. Et je lui ai demandé si ça ne le gênait pas de dire que j'écrive qu'il était le successeur des radicaux socialistes de la Corrèze et donc d'Henri Cueil. Il me dit pas du tout, je le revendique. Oui, vous voyez, ça monte de loin. Et il voulait dire par là que c'était un homme idéologique, très pragmatique, assez attaché aux équilibres, y compris aux équilibres politiques. Il pensait qu'on ne peut pas gouverner la France à droite ou à gauche parce qu'il faut marcher sur ses deux jambes. Ce pays était très divisé, c'est pour ça qu'on lui reprochait d'être trop prudent sur ses réformes. Il pensait que ce pays était inflammable et en définitive, il aura maintenu une concorde civile et il aura évité d'embourber la France dans l'affaire irakienne dont on paye encore les pots cassés.
C'était Denis Tillinac, enregistré fin septembre 2017 lors de la 10e édition de Livres en Vigne, salon prestigieux qui se tient le dernier week-end de septembre en Côte d'Or, au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. Denis Tillinac qui cette année-là présentait un essai intitulé « L'âme française » chez Albin Michel et j'avais donc eu l'occasion de m'entretenir avec lui de la France, de la politique française, lui qui était un observateur passionné de la vie politique française, Denis Tillinac, qui était effectivement, comme il le rappelle, un ami de Jacques Chirac, Denis Tillinac, qui avait aussi, n'oublions pas, été l'ambassadeur en Afrique pour la francophonie et donc pour Jacques Chirac. Je vous propose une dernière virgule musicale à bord de ce wagon-livre aujourd'hui consacré à Denis Tillinac, disparu fin septembre dernier à l'âge de 73 ans. Et je vous rappelle d'ailleurs que le dernier roman de l'écrivain, paru de manière posthume, se trouve en librairie aux éditions des Presses de la Cité et il a pour titre « Le patio bleu ». Excellente fin de matinée sur Radion, c'est Wagon-Livre. Nous revenons juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Je t'apprends rien si je te dis que tu te donnes du mal pour rien. Le grand lasso que tu m'enroules autour des reins qui me retient n'y fera rien.
Cet horizon qui s'offre à moi me fait du bien. Je regarde ailleurs parce qu'ailleurs est mon chemin. Je t'apprends rien, tu le sais bien.
Je n'aime plus de musique en vie, le silence me suffit. Oh.
J'ai même plus de sortir en vie. Ma chambre me suffit.
Tu peux toujours enfouir ta tête entre mes seins. Je me sens loin, je t'apprends rien.
Les sentiments filent tout comme dans la nuit les trains. Des portes se ferment, on tourne la tête, on t'enlève. Je n'ai plus faim, le monde m'appartient. Oh, je voyage dans le temps, l'espace, sans limite et sans fin. Oh, 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 tu sais bien que la douceur que l'on envoie vous revient, le cercle d'amour qu'on dessine autour des siens fait tant de bien. Oh, tu le sais bien.
Y a tant de comptes à régler, mais un beau matin, le ciel noir se déchire et la lumière revient. Et tout est bien. Je t'apprends.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Très sincèrement, merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés aujourd'hui à bord de ce nouveau numéro de Wagon Livre qui se voulait un hommage à l'écrivain Denis Tillinac, disparu fin septembre dernier. À l'âge de 73 ans, il nous laisse une œuvre très importante de romans, d'essais, de réflexions hein, chez un grand nombre d'éditeurs. Je rappelle que Denis Tillinac a reçu le Grand Prix de littérature Henri Gall de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Actuellement disponible en librairie, son dernier roman paru de manière posthume aux éditions des Presses de la Cité et qui a pour titre Le Patio Bleu, dont nous avons, je pense, largement parlé. Et puis, information que je répète, c'est en janvier 2021, avec d'ailleurs une préface inédite de l'auteur, que les Presses de la Cité, dans la collection Omnibus, fera paraître Le Bonheur en Corrèze, qui regroupe en fait les romans provincialistes de Denis Tillinac, parmi lesquels Spleen en Corrèze, qui d'ailleurs l'a vraiment fait connaître, c'est un roman qui date de 79, L'été anglais, À la santé des conquérants, Maison de famille, Un léger malentendu, L'hôtel de Kaolac, Le jeu et la chandelle, Le bonheur à Souillac, Le bonheur en Corrèze, collection Omnibus chez les Presses de la Cité en janvier 2021. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre écoute attentive et curieuse. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion, samedi 28 novembre. Au revoir à toutes et à tous.